Merci beaucoup Séverine pour cette présentation. On accueille maintenant Vincent Chollier de l'Université Lumière Lyon 2 Prairial pour la restitution de l'enquête sur les besoins en communication des revues du périmètre lyonnais.
J'attends mes camarades quand même. On va meubler. J'ai pas donné ma présentation avant. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Si mes camarades du GT veulent bien se mettre sur les fauteuils pour répondre si jamais aux questions au moment où il y en aura. Donc contrairement à ce qui était affiché, en fait, je ne suis pas tout seul à intervenir. Alors, je vais être en grande partie seul à intervenir. Il y aura aussi Marie qui viendra présenter un projet de livrable du GT Communication. Donc je vais commencer par présenter un petit peu ce groupe de travail qui s'est constitué début 2023. Donc est composé en partie des personnes que vous voyez à l'estrade et donc de moi-même. Il y a d'autres personnes aussi qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Donc en fait ce groupe de travail a souhaité faire une étude, une enquête auprès des revues du site Lyon-Saint-Étienne et des revues hébergées sur la plateforme Episcience. Dans la mesure où, en fait, on avait, au sein de Prairial, reçu une requête en fin 2022 de plusieurs responsables de revues qui souhaitaient faire plus de communication et d'avoir des billes un petit peu pour faire de la communication. En effet, on se retrouve fréquemment aujourd'hui avec des revues qui n'ont une présence exclusivement qu'électronique et donc qui ont des difficultés. Ah, c'est formidable. Merci, la régie. Qui se retrouvent exclusivement à faire de la communication par le biais du web. Et donc, cela a un enjeu particulier. Donc, vous avez la liste du GT, des membres du GT, donc plus Marie et moi. Vous avez l'accès via le QR code au rapport d'enquête complet, qui est pour l'instant simplement sur le site de Prairial, mais qui est voué à être hébergé sur une plateforme d'archivage. Donc le but de cette enquête était en fait déjà dans un premier temps d'établir, de faire un état des lieux de ce qui se faisait au sein des revues qu'on interrogeait, et de savoir quelles étaient les pratiques de communication de ces revues. On a sondé environ 70 revues qui correspondent en fait aux 50 revues identifiées sur le site Lyon-Saint-Étienne et une vingtaine de revues de la plateforme Episcience francophone. On a recueilli en fait une quarantaine de réponses, qui est un bon score, on va dire, pour ce genre d'enquête. Donc on est à peu près à la moitié. Et donc, c'est ces résultats que je vais vous proposer maintenant. Alors, ce qu'on a pu déjà constater, c'est qu'on a affaire principalement à de la communication scientifique, de la diffusion scientifique traditionnelle, c'est-à-dire que les répondants vont principalement s'appuyer sur des listes de diffusion pour, bon, principalement communiquer sur la publication ou sur des appels à contribution. Sachant qu'en fait, il faut nuancer un petit peu ce pourcentage sur les listes de diffusion, parce qu'en fait, on s'aperçoit dans les réponses en détail que ces listes de diffusion sont en fait souvent des listes manuelles, hein, c'est des listes d'agrégation de listes de mails et pas des listes disciplinaires. Je ne vais pas faire complètement le détail, je vous inviterai à lire également, mais voilà, on a assez. On a aussi l'organisation d'événements et la diffusion sur des sites tiers, qui soient des sites de labos, d'institutions, etc. Donc ça, c'est ce qu'on va à peu près appeler la communication, la diffusion scientifique traditionnelle, hein, c'est les voies traditionnelles de la diffusion. A contrario, tout ce qui va permettre souvent de toucher d'autres publics ou d'élargir les publics pour les actualités de la revue, sont plutôt mis de côté par les responsables de revues ou par les personnes impliquées dans des revues. Donc des newsletters, très peu de revues en ont, réseaux sociaux et l'utilisation de sites tiers sont là également peu utilisés par les responsables de revues pour diffuser leurs actualités. Donc, qu'est-ce que les revues attendent finalement de nous, ce qu'on pouvait faire pour elles? Finalement, la réponse générale, enfin en tout cas généralisée à ce questionnaire, ça a été que finalement, la plupart des responsables de revues estiment devoir mettre en place des actions de communication pour améliorer la visibilité de leurs revues. Un peu étonnamment, l'hébergeur, donc souvent Prairial et Episcience, évidemment pour les revues qui ont été interrogées, était identifié comme un relais important. Alors, une première réponse qu'on peut amener là, c'est qu'en fait, en tant qu'hébergeur, on n'est finalement pas un relais si important ni si intéressant que ça, parce qu'en fait, le public cible que nous avons, nous, via nos réseaux sociaux, c'est finalement notre réseau professionnel, des réseaux d'intérêt, de l'édition, etc., mais peu des réseaux disciplinaires. Donc là, effectivement, on peut aider, mais on peut difficilement aller plus avant. Et puis, il y a un point qui est important et saillant selon les différentes réponses que l'on a pu synthétiser, c'est qu'en fait, la stratégie, mettre en place une stratégie de communication n'est pas considérée comme prioritaire du point de vue des revues. Ce n'est pas un élément qui nécessite de prendre du temps pour les responsables de revues. Ce qu'on peut comprendre, effectivement, parce que déjà qu'administrer une revue prend du temps, ils ont de la difficulté. Mais il faut bien voir qu'effectivement, la diffusion, lorsqu'on a rien d'autre qu'un support électronique, doit passer par de la communication et on peut difficilement s'en départir. Je vais vous passer quelques verbatims qui nous ont semblé intéressants, donc on a reproduit également dans le rapport. Je trouvais celui-là particulièrement intéressant parce qu'en fait, donc je vous laisse quelques temps pour le lire. Il est intéressant parce que celui-là, il montre bien que finalement, on considérerait que la qualité scientifique et la qualité des relations qu'on entretient avec son réseau scientifique, finalement, suffirait de soi-même à avoir une bonne communication. En fait, il faut bien... alors, c'est complètement vrai, mais pas que. En fait, il faut aussi entretenir dans un monde où on est du tout numérique et avec énormément de public en numérique, il faut aussi entretenir cette relation, cette réputation sur le biais électronique. Et donc, une communication pourra passer, une communication sur les réseaux ou via une newsletter ou d'autres canaux électroniques va effectivement passer par là. Et on a potentiellement une meilleure visibilité. Un autre aspect qui a été mis en avant, c'est la question du référencement et du catalogage. Alors là encore, effectivement, ce sont des éléments importants, mais qu'il va falloir relativiser au vu des statistiques qu'on peut avoir de consultations sur un certain nombre de revues. Alors là, pour le coup, l'étude qu'on a faite, elle est relativement empirique, on n'a pas de statistiques à vous fournir. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est quand même que la plupart des contenus sont visibles, enfin sont accédés via Google. C'était intéressant parce que au début du mois, Gwendal Henry d'Erudit a fait une présentation aux rencontres Mirabel, et en fait, il exposait un constat qui était un peu le nôtre, c'est-à-dire que 85% des visites qui se font sur les sites des revues se font via Google. Et chez nous, quand on observe les choses, c'est 85% via Google, et là-dedans, il y a une très infime part qui est Google Scholar. Donc en fait, le lecteur, l'utilisateur va venir faire une recherche. Donc d'où vient cette recherche? Il y a forcément quelque part une forme de réputation, de connaissance de l'article ou de l'auteur ou d'un sujet qui fait qu'on va accéder. Et ce n'est pas finalement le référencement ou catalogage particulier qui va faire qu'on accède à un article, mais bien la l'irréputation d'un objet. Enfin, un autre aspect qui était intéressant aussi dans ces retours qu'on a pu avoir, c'est pour les revues de Prairial, la place d'Open Edition. On a eu plusieurs retours, celui-ci n'en est qu'un parmi d'autres. C'est fait qu'effectivement, Open Edition serait un petit peu le Graal en termes de visibilité pour des revues qui seraient sur des plateformes dont moins visibles. Là, c'est une étude qu'on cherche un petit peu à mener. Effectivement, on voit qu'il y a une meilleure visibilité sur certaines revues, mais donc on envisage d'étudier pour deux revues de Prairial qui viennent de migrer, d'étudier leur gain de visibilité grâce à Open Edition, ce qui permettra effectivement aussi peut-être de préconiser des choses. Je vais laisser la place à Marie parce que j'ai déjà trop parlé. Parce que nous avons en fait mis en place deux choses. Déjà, depuis ce rapport, on a mis en place dans les établissements de référence des référents communication vers lesquels les responsables de revues peuvent se tourner pour faire de la communication ou améliorer leur communication. Et puis aussi, on est en train de créer au sein du groupe des fiches pratiques pour mettre en place un certain nombre d'éléments. Donc là, vous avez l'exemple de la fiche LinkedIn que va vous présenter Marie. On aura d'autres projets. Et je laisse Marie.
Bonjour. Donc, je vais vous présenter brièvement un exemple des fiches sur lesquelles on a travaillé. Donc, pour rebondir sur la présentation de mon collègue Vincent Chollier, ce groupe de travail est né suite aux besoins dont nous ont fait part les responsables de revues en matière de communication. Et l'enquête qu'on vient de vous présenter a notamment fait ressortir parmi les attentes un souhait d'avoir des ressources en ligne et des fiches pratiques à consulter. Donc notre groupe a travaillé sur un livrable qui est l'aboutissement de l'enquête qui vient d'être présentée et constituée donc de fiches pratiques conçues pour accompagner une prise en main rapide des outils de communication. Donc en fait l'idée c'est que ces fiches puissent aider les porteurs de revues, notamment les chercheurs et enseignants-chercheurs porteurs de revues qui n'ont que peu de temps à dédier à la communication autour de leur revue, mais qui souhaiteraient prendre en charge à minima cette communication. Donc je vous propose qu'on se concentre sur l'exemple de la fiche sur le LinkedIn, donc le réseau professionnel que vous connaissez déjà très certainement. Une petite remarque, on a fait le choix d'utiliser une police Luciole, enfin la police Luciole, qui est recommandée en matière d'accessibilité et qui a été créée par le Centre technique régional pour la déficience visuelle en territoire Rhône-Alpes avec le studio typographie.fr. Donc en fait, l'idée de l'affiche, c'est vraiment qu'on soit sur un format synthétique, donc un format A4 qui tient sur deux pages, avec au recto une présentation très générale de l'outil. un résumé de l'objectif principal donc ici LinkedIn, c'est le savoir le partage d'une expertise reconnue et le fait de fédérer une communauté et pouvoir interagir autour de la revue. Et également au recto sont présents sous forme de deux colonnes les avantages et les inconvénients de l'outil concerné. Ensuite, au verso, on retrouve trois rubriques, donc une rubrique sur les modalités d'usage de l'outil. Ici, on s'est notamment concentré sur ce que nous permettait de faire la version gratuite déjà de LinkedIn. Une rubrique sur les bonnes pratiques à avoir. Donc, en l'occurrence, on est revenu un petit peu sur le fonctionnement de l'algorithme du réseau pour comprendre comment ça marche et donc pourquoi telle ou telle pratique sont plutôt à privilégier pour tirer le meilleur parti de l'outil. Et enfin, une dernière rubrique donc, de conseils, voilà, qui sont en l'occurrence pour LinkedIn, le fait par exemple de taguer des personnes, d'utiliser des mots-clés, varier les formats de publication en utilisant des images par exemple. Et on a également ajouté des exemples de revues, en bas de la deuxième feuille, on a ajouté des exemples de revues qui utilisent déjà une page LinkedIn pour vous donner une idée voilà, de comment ça peut être utilisé concrètement, et des ressources, donc en l'occurrence un blog qui mène un lien qui mène vers un blog d'un communicant spécialisé dans LinkedIn. Donc pour conclure, d'autres fiches sont en cours de finalisation, notamment une sur Facebook, une autre sur la... Je ne sais pas comment... Non. Pardon. Bon, c'est bon. Excusez-moi. Donc, pour conclure, donc, on est en train de finaliser une fiche sur Facebook, une autre sur la question de l'identité graphique d'une revue, et également une fiche autour de la création d'une lettre de diffusion ou newsletter qui fera sans doute écho et qui complétera ce que vous avez déjà pu voir pour celles et ceux qui ont participé hier à l'atelier avec mes collègues Maëlle Lopez et Sandrine Padilla de NS Éditions. Ces fiches seront donc prochainement disponibles donc, dans ce format sur le site de documentation Prairial Doc. Vous pourrez les consulter et les télécharger. Et enfin, je rappelle que ces fiches ont pour but d'être un support d'aide à la communication. Donc, libre ensuite aux porteurs de revues et notamment les chercheurs et enseignants-chercheurs de s'en emparer. On voit dès le début, on a présenté les avantages et les inconvénients, donc libre aux chercheurs et enseignants-chercheurs d'élaborer ensuite un plan de diffusion qui leur convienne. Et c'est pourquoi ces fiches, on peut pleinement s'emparer de ces fiches puisque les textes sont sous licence CC BY SA et peuvent donc être repris et adaptés en fonction du contexte de travail. Et voilà, c'est tout pour moi.
Du coup, l'effet est tombé à plat.
Est-ce qu'il y a des questions ? Des retours d'expérience.
Ouais. J'arrive.
Bonjour, Sabine Arveil et INRAE, pardon. Vous avez laissé complètement tomber Mastodon, Blue Sky pour les fiches. Enfin, vous ne recommandez pas du tout à vos revues ce type de réseaux sociaux. Je ne parle pas de X, voilà, parce qu'il y a eu pas mal de polémiques autour de X. Parce que le Mastodon est très utilisé, il semblerait, par les chercheurs. Et donc, voilà.
En fait, pour l'instant, on est un peu en position d'attente vis-à-vis de ces deux réseaux que tu as cités. En fait, Mastodon et Blue Sky, pour l'instant, les communautés, elles sont assez dispersées. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est vrai, ce que tu dis, pour certaines communautés disciplinaires, elles vont pas mal y être, et finalement, pas du tout d'autres. En fait, il y a une fiche actuellement qui est tournée plutôt, donc en préparation, qui est tournée sur X. En fait, elle va être tournée sur ce type de réseau, c'est-à-dire du postage assez court, plutôt de réaction à l'information. Voilà. Il nous a semblé que LinkedIn et Facebook avaient des fonctionnements plutôt différents pour qu'on n'ait pas à fournir la même fiche par rapport à ces réseaux de... Je ne sais plus, il y a un terme pour dire... Ces petits réseaux de micro-blogging, c'est ça ? Voilà.
Et enfin, j'avais une autre question, c'est par rapport au public visé par la communication. Tu dis grand public, c'est pour diffuser des infos de recherche pour que les connaissances diffusent dans la société, ou est-ce que vous essayez de toucher, par exemple, des scientifiques pour qu'ils deviennent auteurs dans les revues ? Parce que nous, on a un peu cette question-là aussi pour nos revues à INRAE, qui il y a à peu près 16 revues, et on se voilà, le grand public... on peut le toucher via notre site institutionnel si c'est des recherches INRAE, mais il y a beaucoup de revues qui ont aussi envie d'attirer des bons auteurs, des bons éditeurs associés, des bons reviewers. Et ça, les conférences, les événements, c'est important. Voilà. Et alors, où est-ce que vous mettez le curseur, ou plutôt la diffusion vers la société, ou l'attractivité de la revue par rapport aux pairs, quoi, en fait.
Oui, comme... Agnès, c'est... En fait, l'intérêt, c'est tout. En fait, ce qu'on n'a pas dit là, et ce qu'on essaie de définir aussi au niveau des fiches, c'est que, de toute façon, le principal objectif dès le départ, c'est de définir un public cible. Et du coup, c'est le public de la revue. C'est-à-dire que, en fait, peu importe, quand on parle de grand public, peu importe de qui on parle, mais effectivement, comme tu dis, l'intérêt d'une revue, c'est de gagner des auteurs et des lecteurs. Mais plus on va en avoir, j'ai envie de dire, plus on va avoir de la visibilité, et forcément de la visibilité auprès de la communauté scientifique. Maintenant, effectivement, il s'agit de bien définir à qui on veut parler. À la fois, ça permet de définir un discours, ça permet de définir des réseaux sur lesquels on va s'appuyer, etc., etc. Mais en fait, nous, on ne s'est pas focalisé sur un public en particulier de ce point de vue-là. Il y a un élément dont on n'a pas parlé parce qu'en fait, c'est pas de la communication, mais il y a Wikipédia, sujet que tu connais très bien. En fait, c'est une source de visibilité pour une revue. On sait très bien que c'est une visibilité là pour le coup grand public, c'est-à-dire public non académique, mais c'est aussi une source de visibilité pour un public académique. Donc, où se fige le curseur ? Je suis pas sûr qu'il faille en mettre un. Après, il y a une forme de communication, oui, qu'il faut peut-être mettre en place pour pas se tromper de cible. On va pas effectivement communiquer de la même manière avec des collègues chercheurs qu'avec des scolaires ou avec. Mais ça fait partie de la vie d'une revue, ça fait partie de la vie de la recherche en fait, la valorisation.
Sinon, je voulais vous dire également pour le jeune public, c'est Instagram, où avec des photos, si vous avez des super photos, des vidéos, des choses comme ça, ça marche bien. Et pour les chercheurs, je me demande si ResearchGate, non, c'est pas du tout, enfin, je sais pas, moi, je suis plutôt communicante.
Pour le coup, ResearchGate, on n'a pas souhaité, dans la mesure où, ça, c'est un outil qui est déjà bien, qui est bien répandu. Enfin, ResearchGate peut... plutôt STM, et même si c'est pas tout à fait vrai, mais plutôt STM, et Academia pour plutôt SHS. J'ai dit plutôt, parce qu'on retrouve parfois les deux. Mais en fait, c'est déjà bien emparé par les enseignants-chercheurs. Après, c'est plutôt sur les contenus. Et puis là, vraiment, nous, on s'adresse aux revues. C'est-à-dire que les chercheurs vont avoir leur profil sur ces réseaux académiques-là. Mais en fait, alors déjà d'une part, nous on est totalement contre le fait qu'ils viennent poster des contenus, enfin des articles sur ces plateformes-là, parce qu'il faut savoir quand même qu'un PDF déposé sur Academia ou sur ResearchGate, il devient la propriété du réseau. Donc l'idée c'est plutôt de communiquer sur ces réseaux-là, de fournir par exemple, quand on a une revue, de fournir des PDF light, c'est-à-dire 2-3 pages de présentation de l'article. On va pas plus que, on va pas plus loin. Et ça, c'est fait un peu un teaser pour les personnes pour aller sur des revues. Nous, principalement, on a des revues. Les revues dont on a parlé là, c'est des revues électroniques, souvent en open access et aussi assez souvent en open access immédiat des publications. Donc en fait, nous, on n'a pas de raison d'aller déposer des PDF sur ces réseaux-là entiers, en tout cas. Pas de raison de le conseiller.
Bonjour, Valérie Mansart de NS Éditions. J'ai été sensible à la mention de l'utilisation de la police Luciole pour des questions d'accessibilité. Est-ce que vous avez intégré dans vos fiches concernant les réseaux sociaux toutes les possibilités de rendre accessible une publication sur LinkedIn, Facebook et autres réseaux sociaux, notamment par des bonnes pratiques rédactionnelles et la rédaction de textes alternatifs quand vous publiez des images?
Merci Valérie pour ton intervention. Alors justement, ça fait partie, pour l'instant non, parce que les fiches sont en cours d'élaboration, mais ça fait partie effectivement des objectifs de fournir le plus d'éléments possibles, et notamment concernant l'accessibilité numérique. Donc ça, c'est un point sur lequel on pourrait travailler ensemble avec plaisir.
Merci, bonne nouvelle.
Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Gaëlle Coquenot de la MSH Monde à Nanterre. D'abord, juste deux petits points d'information. Vous avez évoqué Wikipédia. Alors, il y a eu un projet initié dans le cadre du projet Collex Percé Réventique qui est en train de s'achever, et le groupe Édition, donc, qui était porté par Antonio Mendes da Silva à la MSH de Aix. On a un peu réfléchi justement là-dessus. Alors, on n'a pas fini, on va avoir du mal à donner notre livrable d'ici cet été, mais on a réfléchi justement sur Wikipédia et Wikidata pour les revues, alors du périmètre sciences de l'Antiquité, mais avec le projet pour que ce soit applicable à d'autres secteurs. Et deuxièmement, merci justement pour ces enquêtes. Ce qui, à Nanterre, on est en train aussi de développer une clinique des revues périmètre des universités Paris-Nanterre et Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et c'est vrai que de plus en plus, on va dire ce que vous allez faire, ça nous évitera peut-être au moins de le faire. Ce serait dommage de faire des doublons. Et puis de renforcer en effet se concentrer sur d'autres thématiques et de venir peut-être aider des fois à enrichir dans nos échanges avec nos interlocuteurs des revues, puisqu'on a à peu près maintenant plus d'une centaine d'interlocuteurs de revues sur ce périmètre francilien. Merci.
Oui, merci. Pardon. Je remets le QR code ou l'adresse URL pour ceux qui n'ont pas eu le temps de la noter. Oui, effectivement. Mais moi, je pense qu'en fait, c'est à reproduire, hein, ce genre d'enquête. Nous, on l'a fait grosso modo que sur une quarantaine de revues. Ça peut être intéressant aussi de voir si à certains endroits, c'est plus, ça prend un peu plus qu'à d'autres. Hein. Ça enrichirait les constats.
Oui, d'ailleurs, on peut peut-être fournir le questionnaire qu'on avait fait.
En fait, le questionnaire, il est. Oui, c'était là où je voulais en venir. À la fin du rapport, il y a toutes les questions. On a essayé de faire aussi quand on a monté le questionnaire, bon, il fait 24 questions au total, avec des options. On a essayé de fournir un questionnaire relativement court aussi, pour éviter que les personnes qui répondent soient découragées trop vite et qu'elles aient eu l'impression de perdre leur temps. Voilà. Il y a quelque chose que je n'ai pas précisé non plus, donc je profite que je suis encore à la tribune. En fait, on avait donné comme consigne de ne faire qu'une seule réponse par revue. Ça n'a pas été le cas. En fait, il y a deux revues qui n'ont pas respecté la consigne. Et en fait, on s'est aperçu que les deux réponses étaient parfois diamétralement opposées. Et ça, c'est un aspect qui est très intéressant. C'est que au-delà de la communication extérieure, on se rend compte que dans certaines revues, c'est la communication en interne qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que les uns et les autres ne savent pas forcément qui fait quoi. Et je pense que si déjà il y a un travail de mise en cohérence de toutes les actions qui sont faites dans la revue, que ce soit pour de la communication ou pour autre chose, mais en tout cas en communication, déjà si là c'est rationalisé, ce sera un grand pas de fait. Et ce sera, voilà. Et encore une fois, on sait très bien que le temps des responsables de revue est parfois compté, donc c'est compliqué de pouvoir le faire.
Gaëlle, je voulais juste réagir sur le côté mutualisation, éviter de refaire les mêmes choses, etc. Dans le prochain projet de repère qui s'appelle Coopère, donc il y a la mise en place, le recensement de toutes les documentations qui sont produites dans les pôles éditoriaux, etc. Les pépinières, parce qu'il y a un tas de choses en fait qui sont produites mais qui sont peu visibles. Moi, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça ton site sur la clinique juridique. Ce qui nous a amené d'ailleurs à collaborer avec une revue qui était localisée à long terme, qui avait postulé après Arial. Donc voilà, maintenant il y a une petite triangulation intéressante. L'idée, c'est de recenser tout ce qui existe, de les réunir sur une page web qui pointera vers et qui mettra en valeur toute la documentation qui est produite et qui est utile à tout le monde. Et je pense que ça évitera aussi qu'on refasse le boulot alors qu'il a déjà été fait.
Oui, juste une petite question pratique. La fiche sur LinkedIn que vous avez présentée, est-ce qu'elle est disponible en ligne quelque part ?
Oui, prochainement. Ça ne va pas tarder. Ce sera disponible sur le site Prairial Doc. Voilà, donc vous pouvez consulter et télécharger. C'est en accès libre.
C'est l'heure du café, à mon avis.
Pas du tout. Et bien, encore merci pour cette présentation. Et effectivement, c'est l'heure de la pause.